Alors donc, bienvenue à notre cher public pour ces cinquièmes rencontres public-artiste. Et alors, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, tout va mal. On est en retard, il y a des buzz, tout va mal, il n'y a pas de public. C'est déjà ce qui s'est commencé à être annoncé là, c'est le creux de semaine. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on va faire ça intime. Alors, donc aujourd'hui, nous recevons la compagnie Shabbatz Dantar. Je l'ai bien prononcé, Dantrar. Shabbatz Dantrar pour le spectacle Perché. Donc, s'il y a des questions, moi j'aime bien commencer comme ça, savoir s'il y a des questions du public, puisque normalement je suis censé être juste un porteur de micro. Mais du coup. Eh bien, je vais commencer comme je fais quand il n'y a pas de questions. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Donc, des personnages perchés. J'ai vu une ambiance genre... Alors, je délire toujours un peu, moi. Hein? Oui, bien sûr. Ah ben, je ne parle jamais des spectacles si je ne les ai pas vus. Je ne dirais rien, sinon. Hein? Donc... des personnages perchés sur des échasses, on va dire. On va, hein, ça commence bien. Là, je ne me suis pas trompé, je crois. Et dans une sorte d'ambiance, il y a des soucoupes ou des assiettes, des tasses. C'est presque un peu précieux. Il y a une grande table qui est haut perché aussi. Ça pourrait être, mais de façon plus sobre, du Tim Burton. On pourrait dire ça. Ils sont un peu surélevés. Il y a une ambiance un peu comme ça, fantastique, un peu intime aussi. Et d'ailleurs, on va en reparler de ça, un peu intime. Et ils évoluent un peu. Il y a un danger, il y a ces petites assiettes qui pourraient glisser, qui pourraient casser. C'est assez, assez précieux, on va dire, et très intime. Et j'insiste d'ailleurs sur le mot intime parce que j'étais un poil scandalisé par le fait que alors que c'est très intime, vous vous retrouvez dans une salle qui est faite pour du show business. Et du coup, je me dis, comment est-ce que c'est possible ? Comment est-ce que c'est possible de donner des petites relations, des petites choses ? Alors, le fantastique, il arrive pourquoi ? Parce que on reparlera des échasses. Moi, j'ai connu des échassiers, je ne sais pas s'ils ne sont pas morts d'ailleurs, un type qui s'appelait Tino, un Espagnol. J'ai connu un bouffon qui faisait du théâtre de rue, mais qui était complètement perché du reste, puisqu'il passait sa vie le long des églises, dans toutes les villes, beaucoup à Paris aussi, en bouffon. Et il intervenait comme ça dans le public. Et généralement, les échasses, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est assez intime parce que ça existe au milieu du public. Et ça donne justement un fantastique parce que 1m50 quand on n'est pas loin, c'est énorme, quoi. Et quand on est très loin, c'est petit. Et là, vous avez à combler un espace invraisemblable. Et donc, il faudrait envoyer des HMI, enfin, ce qui ne serait même pas possible. Ça n'est pas possible pour ce spectacle, quoi. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Déjà, est-ce que c'était une difficulté pour vous, cet espace?
C'était...
Ouais, je crois qu'il marche, je vais voir.
Ah.
Oui, il faut le mettre tout proche.
Oui, c'était assez dur, en tout cas pour les spectateurs qui étaient tout là-haut. Après, ça faisait partie du jeu. Mais effectivement, les petites choses, cette relation... Puisque à la base, c'est un huis clos et on aimerait bien que le spectateur soit positionné en tant que voyeur. Et il y a des places qui sont parfaites, mais les places tout là-haut, c'est peut-être dur de voir un petit sourire ou un petit clin d'œil. Voilà. Oui, je suis assez d'accord.
Mais même en bas, parce que c'est dans les rapports, on a toujours la sensation même du public derrière soi. Et quand on est dans une grande salle, on est dans une grande salle, quoi, même si on est devant. Moi, j'étais à peu près au milieu des gradins et on a la sensation du public, quoi. Il faut envoyer la grosse cavalerie, quoi. Donc, on n'est pas dans ces registres, c'est du théâtre de chambre, ce que vous proposez, quoi. Voilà.
En même temps, c'était quand même un plaisir de...
Bien sûr, voilà, et une expérience.
Et une expérience.
Bien sûr, oui. J'en ai connu, mais enfin, des fois, on s'en repasserait.
Moi, je peux rajouter, effectivement, il y a cet espace qui est très, très particulier. Enfin, moi, je l'ai vécu il y a 3 ans. en solo, que cet espace est assez casse-gueule, effectivement, pour les formes intimistes. Il y a aussi, bon voilà, il y a nous ce qu'on a fait aujourd'hui, évidemment, qui est du spectacle vivant. Hein. Et on est dans un phénomène assez particulier, qui est un festival de cirque. Donc là, on arrive avec un art qui n'est pas forcément connoté cirque. On a un public qui vient voir du spectacle en se laissant porter. On a un public qui est en attente de virtuosité, de triple saut périlleux, de full, de voilà. Donc une impatience face à des propositions qui effectivement ne sont pas dans ce sens-là. Ça s'est bien senti aujourd'hui. Donc voilà, c'est un endroit particulier pour un objet très très particulier effectivement. Ceci dit, s'il fallait le prendre cet espace, on va faire un retour, on va travailler quoi, puisque on est là pour ça. Mais il a sa place là effectivement parce que c'est un art à part entière les échasses ancestrales. Enfin, Olivier et Karine en parlant mieux que moi évidemment. Et que ça a sa place comme a eu à un moment donné le mât chinois, la roussire.
Bien sûr. Et puis dans l'histoire du spectacle, il y a toujours combien de gravures j'ai vues où il y a des échasses. Moi, j'ai un souvenir de gravures, par exemple, de Commedia dell'arte, où on voit des zani, c'est-à-dire c'est des ancêtres des personnages de la Commedia dell'arte, avec des longs masques presque des oiseaux et qui sont comme ça sur les échasses, un peu comme tu fais d'ailleurs à un moment donné quand tu es quand tu as des arrêts nets comme ça vers la fin, là, les petits arrêts, ils ont exactement ce genre d'attitude avec les grands nez longs, avec les masques en cuir. Là.
Oui, probablement.
Vous faites des échasses depuis longtemps, tous les deux ?
Depuis que le début de l'existence de la compagnie, donc depuis 15 ans.
D'accord, depuis le début de l'existence de la compagnie Chapas Dantard.
C'est Dantrard. Ça, tout à fait.
Ça a déjà 15 ans. Mais non, mais c'est incroyable, oui, c'est ça. Et donc avec Damien Coffépé aussi, il était au début ou pas, Damien Coffépé ? Non, il est arrivé par la suite.
Il nous a rejoint par la suite.
D'accord.
Mais il a suivi le travail de la compagnie depuis bien plus de 10 ans.
Ok, d'accord. C'est pour ça, tout à l'heure j'ai lu sur un truc que la compagnie avait déjà monté 10 spectacles.
Ouais, tout à fait.
Et moi j'en ai vu qu'un, c'est celui où il y avait Damien avec Mobile. Voilà, c'est ça.
Planche, oui.
Ouais, c'est ça. Et d'accord. Et donc, c'est une compagnie qui est en Corrèze ?
En Limousin, Haute-Vienne.
Ah oui, d'accord.
Haute-Vienne.
D'accord.
Et on a commencé, effectivement, avec le travail des échasses dans la rue, d'où cette attirance pour cet agrès. Et on avait envie de lui donner aussi ses lettres de noblesse et de les porter au plateau.
D'accord. Et c'est la première fois que vous les ramenez au plateau, les échasses ?
Sur mobile,
il y en avait ouais. Mais c'était un petit
voilà.
temps. Ouais.
Voilà. Là, on
d'accord.
avait envie d'un spectacle complet,
d'accord.
Que avec cet agrès.
D'accord. Et alors, comment ça s'est passé, le thème, comment vous avez travaillé ça ?
On avait envie de travailler autour de la vie quotidienne.
C'est ça, parce que c'est un couple.
Tout à fait.
C'est ça, c'est une vie quotidienne transfigurée, un peu transposée.
Voilà.
C'est ça.
Et comment mettre de l'extraordinaire dans l'ordinaire.
D'accord.
Et c'est un couple qui a quand même quelques années au cul. Et,
ouais.
Et voilà, comment rendre ça un peu moins chiant que...
D'accord, parce qu'il est en deux temps le spectacle. Il y a le moment où il y a la chute, c'est-à-dire que d'un coup, eh ben, ils ne sont plus perchés.
Tout à fait.
Et il n'y en a plus qu'une qui est perchée. Quoi.
Exactement.
Mais ça, c'est... Comment dire ? Vous avez donc, dans les 10 spectacles que vous avez déjà faits, il y a aussi donc, des spectacles de rue, quoi, beaucoup de spectacles de rue.
Oui, on a commencé par des spectacles de rue, soit des déambulations, soit des spectacles fixes dans la rue. Et petit à petit, on a intégré le plateau.
D'accord. Mais avant Mobile, j'imagine.
Avant Mobile, voilà.
D'accord.
Il y avait un spectacle jeune public qui s'appelait Les Troubadours trottent la terre. Et puis voilà.
Et ensuite, on a été faire un petit détour par le spectacle pyrotechnique.
Ah oui, aussi. Ouais. Ça, c'est très rue aussi, ça.
C'est très extérieur, en tout cas.
D'accord. D'accord. Et alors, comment ça se passe quand vous construisez ? Alors là, vous avez travaillé avec Rémi. Mm-hmm. Et comment ça se passe ? Vous aviez déjà de la matière avant qu'il arrive ?
Non, on a construit la matière avec Rémi.
D'accord, oui, comme ensemble. On fait toujours. Mais bon, je pose quand même la question, parce que des fois...
Voilà, et on a essayé de sortir des axes habituels du travail sur échasse et de chercher d'autres choses.
Oui, c'est ça.
Et d'autres postures, d'autres chorégraphies, de travailler autour des portées, voilà.
Oui, puis voilà, cette matière-là, évidemment, comme a dit très justement Olivier, sortir des axes, parce que aller voir à la limite de la chute, enfin tout ce qui était anti-échasse, en fait, tout ce qui. Et puis voilà, s'il y a une forme de virtuosité, moi je tiens à dire qu'elle est essentiellement poétique. Sur échasse, échapper une petite cueillère ou une assiette, c'est un drame, parce que pour le ramasser, c'est une catastrophe. Oui. Un échassier qui est par terre et qui essaie de se relever tout seul, c'est un handicap monumental.
Oui.
Donc il y a la virtuosité, elle est là aussi, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de d'équilibre et de déséquilibre permanent, puisque l'échassier ne peut pas rester fixe sans un support. Et donc comment aller au bout de ça et comment se mettre en danger. Mais voilà, la métaphore va très bien au couple, évidemment, puisqu'ils vont pousser, à se mettre en déséquilibre l'un l'autre avec leurs différences. Ils vont être obligés de se solidariser à des moments. Ils vont être obligés, ils sont forcément en désaccord. Et puis, jusqu'à un moment donné, voilà, où ils sont un au sol, un en l'air. Après, la métaphore, on en fait ce qu'on en veut. Mais voilà, il y a un écart, il y a deux différences qui cohabitent.
Et alors, vous l'avez joué dans des théâtres, j'imagine, un peu plus intimes, du coup.
Oui, c'était des plus petits théâtres, effectivement.
Donc, les retours, j'imagine, étaient un peu plus simples. Il y avait avec le public, comment ça s'est passé ?
Généralement très bien. On a eu aussi, on a malgré tout eu une expérience dans un vrai théâtre à 600 places hein, aux Pays-Bas, mais qui était très bien conçu,
ah oui,
très bien pensé.
D'accord.
Et ça s'est très très bien passé.
Ah oui.
Maintenant, voilà, je ne veux pas décrier ce lieu non plus.
Non, bien sûr. Mais de toute façon, c'est souvent un peu le problème, le rapport. Il y a pas mal de lieux ici, des fois c'est difficile, quoi, parce qu'il faut caser les spectacles dans des lieux différents.
Ou alors, il faut faire une création sur le basket.
Oui, ou alors, c'est ça.
Ou alors, il faut faire une création avec des basketteurs, dans vos mousons.
Et vous connaissez, moi je me rappelle les échassiers que je connaissais, ils connaissaient pas mal d'échassiers. C'est-à-dire qu'ils avaient la capacité, s'il y avait un besoin à un moment donné, je me rappelle ce fameux Tino, c'était un catalan. Souvent on l'appelait pour un tournage, il fallait des échassiers dans un film, il fallait des trucs comme ça. Il avait son, j'imagine que c'est un peu comme ça, quoi. Il avait tous ses numéros de téléphone, ils arrivaient à 15. C'est presque une corporation, quoi, les échassiers. Parce qu'ils se retrouvent souvent dans la rue parce que ça fonctionne. Je parle pour vous presque.
Oui, mais après c'est aussi un gagne-pain. Oui, du coup, on se soutient les uns les autres et sur des grosses commandes, effectivement. On passe quelques coups de fil et puis oui, on peut se retrouver à 10, 12 dans la rue et on en voit. Mais du coup, c'est autre chose, c'est un autre travail.
Oui, bien sûr, non, c'est complètement autre chose. Voilà. Non, mais c'est ça qui est intéressant parce que effectivement, comme on dit, c'est un art en soi, c'est un art physique. Donc du coup, c'est une chose qui peut exister avec le cirque aussi et on ne le voit jamais. On n'a jamais eu ici quasiment des chasses.
Je voulais quand même rappeler que dans le cirque traditionnel, il y a toujours eu.
Bien sûr. Donc il existe une corporation qui a été mise à l'écart. Hein.
Tout à fait.
Enfin, de notre côté en tout cas. De ce côté-là, c'est mis à l'écart.
Puisque souvent, les échassiers sont les animateurs de rue ou ce que nous on appelle des porte-costumes. Et ça s'arrête là. Et on avait vraiment envie, voilà, d'aller plus loin dans la démarche et d'aller au plateau et de faire la démonstration qu'on était tout à fait capable de monter un spectacle vivant d'une durée de 1 heure avec une dramaturgie, des chorégraphies et tout ça sur échasse. Avec une musique composée, avec une création lumière, un vrai spectacle. Voilà.
Et donc voilà. Et on savait que c'était aussi un challenge, quoi, parce que ça n'existait pas et qu'on avait cette envie-là et qu'on savait pas où ça allait nous mener, quoi, à l'origine de ce projet.
Après, je sais pas si ça peut être classé dans les arts du cirque, mais quelque part, nous, c'est pas à nous de le faire. Ça peut être chez les inclassables, ça peut être de la danse, ça peut être ce qu'on en veut. Ça reste un spectacle vivant, point.
Oui, ben ça, les classements, ça sera un autre débat. Mais comment classer les choses, c'est encore un autre débat, quoi. Mais bon, en tout cas, vous nous avez prouvé que c'était possible, et j'imagine que vous avez envie de continuer dans ce sens-là, quoi.
Bah, en tout cas, ce qui est toujours intéressant, c'est en tout cas dans des endroits comme ça, même si c'est à double tranchant et ça peut être très, très casse-gueule. On l'a vu avec le dernier spectacle mobile. On a vu des petits de mobile. C'est très bien. Mais c'est très bien comme ça. En tout cas, je pense que la compagnie espère aussi avoir déclenché quelque chose qui fait que l'art de l'échasse peut, comme on disait Olivier, retrouver des lettres de noblesse et que des acrobates s'en emparent et que voilà, c'est un art magnifique, magnifique. Il y a des choses
mais on le voit bien, puisque c'est ce que vous pratiquez aussi très souvent, c'est un art extrêmement populaire, parce que dans la rue, il y a presque toujours des échassiers, parce que la population le réclame. Quasiment, parce qu'on voit toujours comment les gens sont fascinés dès que les échassiers rentrent, par exemple, dans le cadre d'un déambulatoire ou sur des interventions, quoi. Est-ce que vous connaissez un peu, mais je ne sais pas, moi c'est pour ma curiosité personnelle, est-ce que vous connaissez un peu l'histoire des échasses? Parce que moi j'ai cité ça parce que je vois une gravure avec et puis je vois les bergers basques.
Voilà, les plus anciennes échasses, en tout cas en France, effectivement, sont les Landais, qui utilisaient les échasses non pas pour marcher dans les marécages, ça c'est faux, mais simplement pour pouvoir voir de loin et aussi se protéger des loups. Simplement. Et ensuite, il y a quasiment aux mêmes époques, sur Madagascar notamment, et puis par la suite, enfin sur Madagascar, c'était un jeu pour les enfants, un jouet. Et pareil, quasiment aux mêmes époques, là on est sur une autre symbolique en Afrique, où là ce sont les danses traditionnelles et c'est beaucoup plus ésotérique.
Oui, c'est ça. Et je crois que j'ai vu des trucs aussi comme ça. J'ai vu des photos de rituels africains où ils sont des fois même un peu en oiseau, en tout cas avec des pailles, et c'est des sortes d'oiseaux. C'est souvent relié à l'oiseau, souvent aller
au c'est par rapport flamand, à leur culture animiste.
Oui, c'est ça. C'est ça, c'est l'oiseau. Ou alors sinon, c'est, je pense, moi, ça me fait aussi penser aux éléphants de Salvador Dali, là, je pense, tu vois, avec... Ouais, hein, alors ça, c'est autre chose. Non, mais de toute façon, on va clore, là, à moins que vous ayez encore des choses à dire.
Moi, ça me va.
Mais voilà. Voilà. Bienvenue aux échasses.
J'espère. Et n'oubliez pas de venir encore demain. Bien sûr. Samedi.
Ça me fait penser, d'ailleurs, qu'il faut que j'annonce, j'ai failli oublier, que ce soir à 20h, à la radio, il y a une émission en direct et en public avec Jure Domingo et Julien Vitecoq pour la Crida Compagnie, Rémi Balaguet, artiste de cirque, Marc Fouillant, directeur de Circa, Jean-François Célier, ancien président du festival Circa, et surtout Jean-Michel Bouillon, circologue, qui va disséquer tout ça. Voilà. Eh bien, merci bien.
Merci.
Et c'était ma dernière rencontre artiste, parce que demain je file et je laisse la place à Marc Parretti dès demain. Ciao.